le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Un assistant parlementaire européen arrêté parce que soupçonné d'espionnage pour le compte de la Chine. On vous raconte ces nouveaux soupçons d'ingérence autour du Parlement européen. Mais d'abord, 1 milliard d'électeurs, un scrutin organisé sur 6 semaines. On plonge dans le gigantisme des élections indiennes. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Depuis une semaine se tiennent des élections législatives dans ce qui est considéré comme la plus grande démocratie au monde, l'Inde. Près d'1 milliard d'électeurs sont attendus pour ce scrutin qui, au total, va durer près de 50 jours. Le Premier ministre Narendra Modi est au pouvoir depuis 2014. Sera-t-il réélu pour un 3e mandat consécutif ? À quels enjeux le pays est-il confronté actuellement ? Que peut-on dire de la situation économique, sociale et politique de l'Inde ? Pour répondre à toutes ces questions, Camille Torlinden a appelé Olivier Dalag, spécialiste de l'Inde et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris.
Bonjour Olivier.
Bonjour Camille.
Du 19 avril au 1er juin prochain auront lieu les élections législatives pour répartir les 543 sièges de la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien. Près d'1 milliard d'électeurs sont attendus aux urnes. Que peut-on dire du paysage politique de cette démocratie multipartite ? Et qu'en est-il du Premier ministre au pouvoir depuis 2014 ?
Narendra Modi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, cherche à obtenir un 3e mandat de 5 ans pour poursuivre la transformation déjà très profonde de l'Inde qu'il a esquissée depuis son arrivée au pouvoir en 2014 et sa réélection avec une majorité accrue en 2019. Évidemment, en face, l'opposition cherche à lui contester cette ambition. Et alors que les partis d'opposition sont généralement très divisés, et ils le sont encore, ils ont essayé de former une alliance, donc 28 partis. Il y en a quelques-uns qui sont partis entre-temps. Et le but principal est évidemment de déloger le BJP, le parti de Narendra Modi, et Narendra Modi lui-même. Il faut avoir à l'esprit que le système électoral, c'est le même qu'en Angleterre. C'est-à-dire que c'est un scrutin uninominal à un seul tour. Autrement dit, le candidat qui a le plus de voix est élu et c'est fini. Donc si l'opposition est divisée, eh bien, même si le total des voix est supérieur au nombre de voix du BJP, c'est quand même le candidat BJP qui sera élu. Et c'est ce qui s'est passé en 2014 et en 2019, puisque le BJP a obtenu la majorité absolue en 2014, avec 31% des voix et une majorité renforcée en 2019 avec 37% des voix. 37%, c'est beaucoup bien sûr, mais ça n'est pas la majorité. Simplement la division de l'opposition a fait le reste.
L'Inde est devenue la 5e économie du monde, dépassant même la France et le Royaume-Uni. Comment expliquer cette croissance ? Quel rôle Narendra Modi a-t-il joué ? Poursuivre ce développement économique est-il un thème de campagne dominant ?
L'économie est tout à fait au centre de la campagne. Alors, il est vraisemblable que le PIB de l'Inde va, dans les prochaines années, dépasser celui de l'Allemagne et du Japon, ce qui ferait de l'Inde, avant 2030, la 3e économie du monde. C'est dû à une croissance très soutenue, mais qui n'a pas commencé avec Narendra Modi. En fait, depuis le début du 21e siècle, on a une croissance qui varie entre 6 et 7,5%. Là, les dernières prévisions du Fonds monétaire international pour 2025 disent qu'elle devrait s'établir aux alentours de 6,8%. Comme il y a de l'inflation, la croissance réelle est évidemment inférieure. Et néanmoins, c'est une croissance importante, beaucoup plus importante, par exemple, que ce qu'on voit en Europe et même aux États-Unis. Et donc, avec la formule des intérêts composés, ça veut dire que dans la mesure où cette croissance ne faiblit pas, eh bien, elle va continuer à croître d'une manière exponentielle et l'objectif qui est affiché par Narendra Modi, c'est de faire de l'Inde en 2046, c'est-à-dire 100 ans après l'indépendance de l'Inde, l'une des toutes premières puissances du monde. Ayant dit ça, l'Inde est un pays riche par sa production intérieure. Il y a des très riches en Inde. Il y a une croissance du nombre de milliardaires tout à fait impressionnante. La seule ville de Bombay héberge 92 milliardaires et la presse indienne s'en est vantée récemment. Mais tout à fait en bas de l'échelle, c'est pas du tout la même chose. Ça stagne ou ça progresse très lentement. C'est-à-dire que les inégalités s'accroissent en Inde et cette croissance ne profite pas à la majorité de la population parce que c'est une croissance qui ne crée pas d'emplois ou très peu. Et ça, c'est un des problèmes majeurs et c'est l'un des éléments clés de cette campagne électorale.
L'Inde s'est imposée comme une puissance économique non négligeable, mais ce n'est pas pour autant qu'elle excelle à tout niveau. Que pouvez-vous nous dire sur la satisfaction des besoins alimentaires du pays ou sur le calcul revenu habitant réalisé par le Fonds monétaire international ?
Le fait que le gouvernement indien distribue des rations alimentaires à 800 millions d'Indiens sur une population d'1,4 milliard, alors même que en 2014 le BJP avait fait campagne contre ces subventions aux pauvres en disant nous on va créer des emplois et c'est ça qui va sortir les gens de la pauvreté, montre que le but n'a pas été atteint. Et le débat sur les inégalités est un débat très chaud qui oppose les économistes entre eux, et le gouvernement conteste absolument les chiffres qui sont publiés par des instituts internationaux et des observateurs indépendants en Inde. Et ce qui s'appelle Niti Aayog, c'est un peu l'équivalent du commissariat au plan, le think tank gouvernemental, a affirmé récemment qu'il n'y avait pas plus de 5% d'Indiens qui étaient dans la pauvreté, ce qui ne correspond pas aux statistiques effectivement publiées par des organismes internationaux. Et donc la question de ces inégalités oppose véritablement le BJP et le gouvernement aux partis d'opposition dans cette campagne. Si on prend les pays du G20, puisque l'Inde a présidé le G20 l'an dernier, et le sommet de New Delhi en septembre a été considéré comme un succès diplomatique pour l'Inde, et toute l'année d'ailleurs avait été marquée par une campagne très très prononcée pour souligner à quel point l'Inde comptait dans le monde puisqu'elle présidait le G20. Et donc l'Inde est, on l'a dit, la cinquième économie du monde, mais sur les 20 pays du G20, l'Inde est en 20e position pour le revenu par habitant. Et elle a même été dépassée ces dernières années par le Bangladesh, parce que le Bangladesh a mieux résisté que l'Inde à la crise du Covid. Il y a un gros trou d'air dans la croissance indienne, il y a même une récession pendant les années Covid 2020-2021 qui a en partie été rattrapée depuis, alors que Bangladesh a réussi à moins souffrir sur le plan économique. Puis il a des atouts de son côté. Enfin, tout ça pour dire que, en effet, l'Inde qui ambitionne de plus en plus de jouer un rôle de grande puissance à l'égal des autres grands pays a cette faiblesse qui, pour l'instant, apparaît sinon insurmontable, du moins non surmontée.
L'Inde est un pays d'ingénieurs, essentiellement composé de conglomérats familiaux. Leur objectif premier est d'augmenter leur patrimoine familial et de maximiser le profit. Mais accorde-t-il tout de même de l'importance à la recherche et au développement durable ?
C'est en tout cas dans le discours public. L'Inde connaît de gros problèmes environnementaux. Elle n'est pas la seule, hein. La Chine également. Enfin, tous ces pays qui sont en plein développement et qui cherchent à sortir de la pauvreté s'industrialisent à tour de bras. Ils ont des compagnies minières, font des forages dans lesquels les questions d'environnement passent un petit peu au second plan. Des forêts sont coupées, il y a des rejets dans l'atmosphère. Si on prend une mégalopole comme la ville de Bombay, ça construit partout. Ils ont construit récemment une route côtière. Ils creusent des tunnels pour un établissement de plusieurs lignes de métro, les immeubles sortent de terre peu partout et il y a de la poussière sans arrêt. Le résultat, c'est que, comme à Delhi où il y a une pollution pour d'autres raisons, ce sont des villes extrêmement polluées avec des maladies pulmonaires qui font souffrir et même décéder les enfants et les personnes âgées. Il n'y a pas suffisamment d'investissement, quels que soient les engagements pris dans les COP où l'Inde essaye de ne pas jouer le rôle du grand pollueur, ce qu'elle est, comme la Chine. De nombreux Indiens ont une espérance de vie qui est limitée par cette pollution. À Delhi a le privilège assez triste d'être la première ville polluée du monde, et sur les 10 villes les plus polluées dans le monde, il y en a 5 à 7 qui sont indiennes. Et donc, c'est le revers de la croissance, et l'environnement est perçu par les industriels comme un frein à la croissance. Et donc, ce dilemme est souvent tranché en faveur des industriels au détriment de l'environnement.
Qu'entend-on par capitalisme de connivence lorsqu'on parle du pays ?
Dans ce pays, comme dans d'autres, quand on parle de capitalisme de connivence, c'est-à-dire qu'il y a quelques grands magnats de l'industrie qui ont un traitement privilégié lorsqu'il s'agit d'attribuer des contrats, que ce soit dans les télécommunications, l'attribution de ports ou d'aéroports, et d'une manière générale des différents chantiers. Et quelques grandes familles, effectivement, ont prospéré non seulement à cause de leur savoir-faire, mais aussi de leur proximité avec les dirigeants politiques, soit nationaux, soit régionaux.
40% de la population indienne a en dessous de 25 ans, mais l'éducation publique est en décroissance. Que peut-on dire sur l'avenir de la jeunesse indienne ?
C'est un vrai, vrai, vrai problème. L'âge médian en Inde, c'est 28 ans. C'est-à-dire que la moitié de la population a 28 ans ou plus et l'autre moitié a moins de 28 ans. Et on disait tout à l'heure que la croissance ne générait pas suffisamment d'emplois pour absorber les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est largement dû au fait que l'enseignement est d'une qualité très inégale parce qu'il y a un sous-investissement de l'Inde dans le secteur éducatif. Il y a du privé qui ont bourgeonné un petit peu partout, mais leur qualité est très inégale et ce sont souvent, on appelle en France, des boîtes à bac, c'est-à-dire elles font de l'argent et elles font des promesses et la formation n'est pas au niveau. Ça n'empêche pas qu'il y a des instituts de formation extrêmement sélectifs et d'une très très grande qualité. Par exemple, les patrons des GAFAM aux États-Unis ont souvent été formés par ces instituts d'excellence en Inde, mais on parle là d'une toute petite minorité sélectionnée à travers des examens très 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 sélectifs. Le gros de la population n'est pas formé d'une manière suffisante pour leur permettre de trouver un emploi lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte sur le marché du travail. Et c'est l'un des problèmes majeurs. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sociale en Inde. Les fonctionnaires, retraites, elle est minime. Pareil pour l'armée. D'ailleurs, c'est un problème pour les dépenses de défense, puisque à peu près le quart des dépenses du budget militaire de défense en Inde sont consacrées à payer les pensions. Et puis tous ces jeunes qui ont 28 ans au moins, dans 30 ou 40 ans, ils seront moins jeunes. Et la question du vieillissement de la population se pose parce que l'Inde est en train d'achever sa transition démographique. Le taux de fécondité est aujourd'hui à 2,1, c'est-à-dire tout juste le seuil de remplacement. Donc on pense que la population indienne va continuer de croître jusqu'environ 2060-2065, va culminer à 1,7 milliard d'habitants, puis progressivement vers la fin du siècle, elle va commencer à baisser. En l'absence de sécurité sociale, c'est la famille ou la communauté qui sert de filet de sécurité. Mais d'une part, la famille étendue, élargie au sens traditionnel, tend à régresser dans les grandes villes et l'Inde s'urbanise. Et deuxièmement, que ce soit le village, la famille ou la communauté, tout le monde va vieillir. Donc ceux qui seront là pour aider les seniors, les personnes âgées, seront moins nombreux et le fardeau sera beaucoup plus grand pour eux. Autant dire que ce dividende démographique dont l'Inde devrait pouvoir bénéficier aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. Et si l'Inde ne prend pas directement le problème à bras-le-corps dans les années qui viennent, c'est pas à la veille de 2050 ou de 2060 qu'il sera temps d'y faire face.
La principale rivale géopolitique de l'Inde est la Chine. Néanmoins, au niveau économique, le PIB de l'Inde est considérablement inférieur à celui de la Chine. Aspire-t-elle tout de même de s'imposer à ses côtés comme la plus grande puissance économique au monde ?
C'est l'objectif affiché. Mais effectivement, le retard est difficile à combler. Ça prendra longtemps et la Chine n'a pas dit son dernier mot. C'est pour ça que l'Inde a esquissé quand même un glissement assez significatif en direction des pays occidentaux, alors même que la population et la classe politique n'est pas particulièrement pro-occidentale, parce qu'elle a besoin d'une part de se protéger sur le plan de la défense vis-à-vis de la Chine, et toute seule, elle n'y arrivera probablement pas, d'où la stratégie dite d'Indo-Pacifique, les exercices communs avec les marines françaises, américaines, australiennes, japonaises, singapouriennes, etc. C'est évidemment la Chine qui est dans le collimateur. Et l'autre question, c'est que l'Inde, comme la Chine, est extrêmement vorace en énergie pour assurer son développement. Elle est donc très dépendante des approvisionnements en énergie qu'elle prend actuellement dans les pays du Golfe, en Iran, un peu en Birmanie aussi, au Nigeria. Et donc, la sécurité du trafic maritime au large des côtes de l'Inde, tout à fait essentielle à son développement et à sa survie. Or, la Chine a de nombreuses bases militaires dans les pays voisins. Donc, cette rivalité, c'est ce que les Indiens appellent la stratégie de l'étranglement du collier de perles. Donc, cette rivalité, qui ne menace pas vraiment de déboucher sur un conflit majeur, a quand même potentiellement un impact considérable sur l'avenir économique du développement de l'Inde.
Merci Olivier.
De rien Camille.
Après le Qatar Gate et le Russia Gate, va-t-il falloir parler de China Gate au Parlement européen ? Un assistant parlementaire qui travaillait pour un eurodéputé allemand, député du parti AfD, a été arrêté. Il est soupçonné d'être un agent du renseignement chinois et il aurait espionné le Parlement pour le compte de la Chine. On en parle avec Louis Collard, chef adjoint du pôle enquête.
Bonjour Louis.
Bonjour Camille.
Pouvez-vous me dire qui est Jian Guo, cet assistant parlementaire accusé d'être un employé des services secrets chinois ?
Cet homme a été interpellé hier par les autorités allemandes chez lui dans sa ville de Dresde. C'est l'assistant parlementaire d'un eurodéputé d'extrême droite allemand, Maximilian Kra, du parti AfD, qui est crédité de la deuxième place dans les sondages en Allemagne pour les prochaines élections européennes. Et donc ce monsieur Guo, qui est d'origine chinoise mais qui a la nationalité allemande, travaille pour Maximilian Kra depuis 2019. Il a été interpellé hier et déféré ensuite parce qu'il est soupçonné d'être un agent de renseignement au service de la Chine, au service d'un service de renseignement chinois. C'est en tout cas ce que dit le parquet fédéral allemand, qui affirme noir sur blanc dans un communiqué de presse très frappant publié hier, qui déclare que c'est tout simplement un agent des services de renseignement chinois, qu'il travaillait donc pour l'État chinois sous couverture d'être l'assistant parlementaire de cet eurodéputé.
Qu'en est-il justement de l'eurodéputé allemand et tête de liste du parti d'extrême droite AfD, Maximilian Kra ? Était-il au courant ? Comment a-t-il réagi à cette annonce ?
Alors, j'espère pour lui qu'il n'était pas au courant, sinon il pourrait éventuellement être poursuivi. En tout cas, dans sa première réaction publique, il a nié être informé de cela. Il déclare qu'il n'a pas plus d'informations que les informations parues dans la presse allemande et européenne, et que si les allégations d'espionnage au profit de la Chine contre son employé étaient avérées, ce serait évidemment des faits très graves et qu'il licencierait sur le champ. Alors, à ce stade, on ne sait pas s'il est licencié licenciés. Mais par contre, dès hier, le Parlement européen a suspendu à titre conservatoire cet assistant parlementaire. Donc, il faisait partie des quelques 4000 assistants parlementaires accrédités au Parlement européen.
Pourtant, si on analyse l'activité parlementaire de Maximilien Krah depuis plusieurs années, on remarque une réelle inclination pro-Chine. Pouvez-vous me citer quelques exemples ?
Oui, donc en fait, en faisant cette petite recherche sur le profil de Maximilien Krah sur le site du Parlement européen, où énormément de choses sont publiées, rendues publiques, issues des débats, issues des votes, je puis m'apercevoir qu'effectivement, Maximilien Krah évoque à de nombreuses reprises la Chine, et généralement plutôt en bien, plutôt en fustigeant l'attitude occidentale en général envers la Chine. Et donc c'est un discours qui peut assez bien convenir à l'État chinois. Des exemples, ce sont pas grand-chose en général, ce sont simplement des discours prononcés en plénière ou en commission. Mais par exemple, en pleine année Covid 2020, Maximilien Krah appelait ses collègues à s'ouvrir à la Chine pour essayer de retrouver, d'améliorer les relations diplomatiques Europe-Chine et y retrouver une forme de normalité, dit-il, sans qu'on sache vraiment d'ailleurs dans cette expression s'il pense à une normalité en termes de diplomatie ou une normalité pour sortir de la phase pandémique. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut découvrir sur son profil. Et à noter que Maximilien Krah est membre effectif de 3 commissions, et toutes les 3 sont des commissions au Parlement européen qui pourraient tout à fait intéresser la Chine, parce qu'on y parle dans ces commissions de commerce extérieur ou de droits de l'homme. Il est également membre de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les États-Unis, les États-Unis qui ne sont autres que le grand rival évidemment de la Chine.
J'ai entendu que la Chine avait réagi. Qu'a-t-elle dénoncé exactement ?
Oui, elle a réagi très rapidement aux informations parues hier dans la presse européenne et dans le communiqué du parquet fédéral allemand, en dénonçant tout simplement des calomnies destinées à salir la Chine et à détériorer les relations entre l'Europe et la Chine. Voilà, donc en balayant les accusations d'un revers de la main, ce qui n'est pas très surprenant.
L'affaire Voice of Europe date d'il y a quelques jours seulement et concerne un autre dossier d'ingérence concernant la Russie. Le parquet fédéral a pour la première fois de son histoire judiciaire ouvert une enquête pour cela. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Oui, donc c'est ça qui est impressionnant avec la série qu'on vit aujourd'hui. Vraiment, cette législature européenne qui s'achève dans quelques semaines, et c'est la dernière plénière actuellement cette semaine à Strasbourg, elle aura été marquée par bien des crises, mais aussi a été marquée par les affaires d'ingérence étrangère, parce que on a donc ce Chinagate, comme on l'appelle déjà, qui vient d'éclater, et juste avant, c'était cette affaire Voice of Europe, où là aussi, on soupçonne des ingérences, cette fois de la part de la Russie, à travers cette plateforme, ce site Voice of Europe, ce média Voice of Europe, qui dit suspecté d'être en fait un véhicule pour promouvoir un discours plus favorable à la Russie, ou en tout cas moins négatif au sein de l'Union européenne, et aussi, voire surtout, à côté de cela, des soupçons de corruption d'eurodéputés en exercice, en tout cas de ce qu'on sait des eurodéputés d'extrême droite, pour justement porter ce discours pro-russe au sein de l'Europe. Donc c'est typiquement des ingérences étrangères. Et oui, effectivement, le parquet fédéral, comme vous le disiez, a ouvert la première enquête pour ce chef de ingérence étrangère dans les processus démocratiques. Pourquoi c'est le premier ? Parce qu'avant ça, il y a eu le Qatargate, qui est donc la troisième grande affaire qui a frappé cette législature d'ingérence étrangère, mais ce dossier a été ouvert également en Belgique sur base de soupçons de corruption. Donc c'est les délits liés aux ingérences étrangères, mais n'existait pas à cette époque la criminalisation dans le code pénal belge du fait de s'ingérer, d'essayer de subvertir les processus démocratiques en eux-mêmes. Et donc cette fois, l'enquête sur Voice of Europe, le Russiagate, a été ouverte sur ce chef-là, et comme la loi vient d'être adoptée, c'est la première fois que c'est le cas.
Est-ce que le Parlement européen tire des leçons au final de toutes ces affaires qui éclatent récemment ?
Il y a eu, après le Qatargate, très rapidement, vu la gravité de l'affaire, une forme de prise de conscience de la part du Parlement européen et de sa présidente, la Maltaise Roberta Metsola, qui avait fait un discours choc juste après les faits, juste après la vague d'arrestations, en disant que ce serait plus business as usual et qu'elle allait mettre, avec tous les parlementaires, en place une série de réformes. C'est chose faite, une série de réformes ont été adoptées. D'abord, la présidente Metsola avait fait un listing en 14 points de propositions propositions de réforme. Elles ont été petit à petit adoptées, mais ce qui est remarqué par tous les observateurs, notamment les ONG spécialisées dans la transparence de la vie publique, c'est que ce sont des réformes assez prudentes, trop prudentes peut-être, sans doute. Par ailleurs, ce sont des mesures qui visent à renforcer un peu plus la transparence, un peu plus les règles déjà existantes concernant le lobbying au sein du Parlement européen et des institutions européennes en général. Mais lorsque vous avez face à vous des élus qui acceptent des enveloppes de billets, là, le Parlement est un petit peu démuni, puisque c'est vraiment à la justice ou aux justices de s'en saisir. Pour l'instant, mais ça a été évoqué par Alexander De Croo très récemment, les compétences du parquet européen, le parquet qui a été créé en 2021 pour lutter contre les atteintes au budget de l'Union européenne. Pour l'instant, les prérogatives du parquet européen ne sont pas élargies, mais en tout cas, le débat est sur la table d'éventuellement élargir les compétences de ce parquet à des faits de corruption qui ne portent pas directement atteinte au budget de l'Union européenne, voire à l'étendre aux questions d'ingérence, ingérence étrangère. Mais voilà, ça ferait un gros morceau de plus dans l'escarcelle du parquet européen, à voir si ces débats aboutissent prochainement.
Merci Louis.
Merci Camille.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À lundi.